Ce sera une petite restitution d'une formation que nous avons eue avec Paul Masson. C'est un apport de connaissances sur l'Europe et les élections, plutôt qu'un débat. Hein. Alors, on va restituer un petit peu de ce qu'on connaît là-dessus. Ça se veut une démarche d'éducation populaire, hein. Donc un échange quand même. Hein. C'est pas nous, nous détenons le savoir, et vous, non, pas du tout. Vous connaissez des choses, bien sûr que vous connaissez plein de choses, et peut-être même des choses que nous, on n'a plus en mémoire, même si ça nous a été dit pendant cette semaine. Je vous propose juste de faire un petit tour de table. Aujourd'hui, on a des tables, donc c'est un vrai tour de table. Il s'agit juste de dire son prénom, son nom si on a envie, et puis voilà, je viens d'eux. Et puis vous répondez à cette question. En quoi l'Europe influence ma vie, mon quotidien ?
Alors donc, Anaïs, que j'habite à Aix, ici. Et l'Europe, moi ça m'a ramené quelques beaux-frères.
Ah bon ?
Ces échanges...
Sylvie, j'habite Aix, et moi, l'Europe, ce qu'il y a de bien, c'est juste pour voyager. L'euro.
Odile, j'habite Aix. Je vais me mettre dans le point d'interrogation aussi. Ouais. Parce que, voilà, on entend parler, je trouve à mon sens, très peu de l'Europe. Même en période électorale, on est quand même à quoi, 10 jours du vote.
Moins cette année. Hein.
On n'en entend quasiment pas parler. Si la seule chose qu'on voit, c'est qu'il y a 34 panneaux là, qui tapissent les rues partout, ça on les voit bien. Mais bon, voilà, je suis dans le point d'interrogation aussi.
Annie, j'habite aussi à Aix. Bon, moi c'est un petit peu comme ça. Là, actuellement, on se demande si l'Europe, c'est... si c'est vraiment c'est bien, à la limite, parce que... Moi, point d'interrogation aussi, parce que...
Tout à l'heure, on va peut-être avoir des propositions.
Voilà.
Bien sûr.
Brigitte, j'habite Aix. Moi, c'est pareil. Point d'interrogation. Oh. Je ne sais pas, franchement, l'Europe...
Alors, Raoul, moi, je suis salarié de l'association, mais j'habite à Inge, au-dessus de Béthune. Pour moi, l'Europe, déjà, c'est l'absence de contrôle aux frontières. Donc, ça favorise effectivement les visites à l'étranger. Il y a l'euro qui est la monnaie unique, donc plus besoin de faire des calculs de conversion, de change. Je vis dans un village, donc forcément, on ressent chez nous une aide au niveau des agriculteurs. Alors, plus la PAC, non plus plus ou moins bien accueillie, parce qu'il semblerait que la PAC favorise plus les grosses exploitations que les petites. Qu'est-ce que je pourrais dire de l'Europe encore ? Pour moi, dans mon quotidien, pour moi, l'Europe, il y a un raté au niveau de la justice et de la préservation des droits sociaux des travailleurs. C'est-à-dire que je fondais de grands espoirs sur une espèce de mutualisation donc des mouvements ouvriers de l'Europe, mais malheureusement, ça ne s'est pas joué.
Moi, je trouve ça positif, les 34 listes. Et puis après, le truc, l'Europe, c'est encore pouvoir bénéficier pendant quelques années du glyphosate comme traitement herbicide dans nos jardins. Pas les jardins, peut-être pas les jardins, mais dans les champs. Quoi.
L'agriculture.
Alors moi, je veux vous raconter une petite histoire, l'histoire de Mme Durand, qui est une maman de deux enfants. Et l'aîné est actuellement au Portugal, où il étudie pour une année avec Erasmus. Le collégien le deuxième est au collège et lui part en voyage, un voyage scolaire en Allemagne, en juin. Et il n'y aura aucune formalité qui sera nécessaire pour franchir les frontières, hein, puisque vous l'avez dit, c'est la libre circulation. Et il emmènera dans son porte-monnaie des euros. Monsieur Durand, son époux, lui, il a bénéficié du soutien financier de l'Union européenne aux agriculteurs pour l'exploitation de ses terres. Il fait partie des gens qui ont de la chance, ça, pour sa petite exploitation. Et il s'oriente vers la culture bio. Il applique donc au mieux le règlement relatif à la production biologique du Conseil européen, qui a été fixé le 28 juin 2007. Quand ces produits satisferont au label communautaire bio, ils circuleront librement sur le marché européen. Madame Durand, elle travaille à la prison. Alors elle revendique l'application des conditions dignes fixées par l'Europe pour les détenus. C'est pas toujours le cas en France, qui d'ailleurs s'est déjà fait taper sur les doigts. Lors du 8 mai, la famille s'est recueillie près du monument aux morts et a apprécié la paix que connaît la France. P des principales motifs de création de l'Europe à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Alors bien sûr, il n'habite pas très loin de Calais, de Noranfonte et d'autres lieux. Et je pense qu'en parlant de ça, ça doit déjà vous interpeller. Et ils sont très sensibles aux problèmes des migrants qui fuient leur pays en guerre. Et ces migrants bénéficient en partie de budgets qui financent des projets destinés à répondre à leurs besoins les plus urgents. Et l'Europe s'attache également à soutenir les efforts visant à s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière. Alors le premier point qu'on se proposait de partager avec vous concerne donc les compétences des territoires. Donc l'Europe, l'Union européenne, elle a commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, après la Seconde Guerre mondiale. Il y a des Européens qui se sont entendus pour réunir leur pays et construire ensemble une paix durable. Alors au départ, il y avait 6 pays. Il y avait l'Allemagne, il y avait la France, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. On peut estimer qu'aujourd'hui, l'Union européenne a réalisé ce rêve d'une Europe pacifiée, puisque on n'a fort heureusement pas connu de nouvelles guerres depuis l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une véritable force grâce à ses 512 millions d'habitants et sa puissance économique. Alors aujourd'hui, elle est encore constituée de 28 pays. Alors dans l'Union européenne, on a un ensemble d'États. La France, elle est divisée en régions. Et dans ces régions, il y a des départements. Dans ces départements, on a encore d'autres...
communautés d'agglomération.
Voilà, les communautés d'agglo. Et puis, on arrive donc à notre commune.
N.
Il y a un poème qui est magnifique comme ça et qui dit, voilà, il y a mon quartier, il y a ma rue, il y a ma maison, et il y a mon cœur qui bat. Pourquoi ce schéma, Eh bien, simplement pour dire que l'Union européenne, elle donne le cadre des compétences des territoires. Donc l'Union européenne, eh bien, elle régit la douane. Alors je n'ai pas non plus tout mis, parce que ça aurait été compliqué, mais pour vous dire qu'elle influe beaucoup notre quotidien, puisqu'elle joue un rôle dans la douane, la concurrence du marché intérieur, les ressources bio de la mer, alors l'agriculture, tout à l'heure on a évoqué, la politique agricole commune, la pêche, le commerce, l'environnement, la protection des consommateurs, les transports, les réseaux trans-européens. Elle a aussi une politique de liberté, de sécurité, de justice, ça a été évoqué tout à l'heure. Après on peut en débattre, mais voilà. Des compétences de complément, santé, culture, tourisme, jeunesse, sport, protection civile.
Je peux lire la définition, je l'ai sous les yeux.
Vas-y.
L'Union européenne ne peut intervenir que pour soutenir, coordonner ou compléter les actions des pays de l'UE. Autrement dit, ce n'est pas elle qui décide sur ces sujets-là, de lois qui sont contraignantes pour tout le monde, mais les lois sont décidées au niveau national et l'Union peut intervenir pour soutenir.
D'accord.
Donc la deuxième partie, c'est la loi électorale. Donc je vais vous donner quelques indications sur comment ça se passe ce scrutin, sans doute des choses que vous connaissez. Donc l'élection du Parlement européen, des députés qui nous représentent, a lieu en Europe entre le 23 et le 26 mai. Chaque pays ensuite l'organise en fonction des habitudes du pays. Donc en France, ça se passe toujours un dimanche, donc c'est le dimanche 26 mai. Mais il y a des pays où ça se passe en semaine. Les députés européens sont élus au suffrage universel depuis 1979. Avant, c'était une représentation des assemblées nationales. Ils sont élus tous les 5 ans. Donc là, en 2019, c'est la 9e législature qui commencera. Donc cette année, ce qui était prévu, alors avec l'Angleterre, ça change, mais ce qui était prévu, c'était que 27 États participent à ces élections. Là, il y en aura 28. Les 27 États devaient élire 705 députés. Je ne sais pas combien il y en aura si on fait voter les Anglais, mais jusqu'à présent, il y avait 751 députés avec les Anglais. Et il était prévu que sans eux, il y en aurait 705. Donc le mode de scrutin, c'est un suffrage universel direct. Tous les électeurs sont appelés au vote à un seul tour. C'est un suffrage à la proportionnelle de liste. Donc ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est imposé dans tous les pays européens. Et on vote pour des listes entières. On n'a pas le droit, sur une liste, d'enlever des gens qui ne nous conviennent pas. Le nombre de sièges est accordé à chaque liste proportionnellement au nombre de voix obtenues par la liste, à condition d'avoir eu au moins 5% des voix. Donc les listes qui ont moins de 5% n'auront pas d'élus. Et les sièges sont attribués dans l'ordre des candidats sur la liste. Donc ensuite, on enchaîne sur les institutions européennes et puis on finit par les courants de pensée.
Comme le disait Nadine, je présente les institutions. Pour rappel, l'Union européenne repose sur quatre traités essentiellement. Donc, tout à l'heure, tu en faisais mention. Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, signé le 18 avril 1951 à Paris. Il est entré en vigueur le 23 juillet 1952 et expiré le 23 juillet 2002. Donc là, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, quand on décide de mettre les forces pour la paix et non plus pour l'armement. Le traité instituant la Communauté économique européenne, la CEE, qui a été signé à Rome en 1957. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1958. Il est couramment appelé le traité de Rome, donc un deuxième traité. Le troisième traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, Euratom, voilà, CEEA, qui a été signé à Rome en conjonction avec le traité CE. Et enfin, il y a d'autres traités, hein, parce que les lois, il faut quand des pays entrent, etc., ce sont toujours des traités qui permettent ça. Mais les quatre traités qui forment la base de l'Union européenne. Le traité sur l'Union européenne, le traité UE, signé le 7 février 1992 à Maastricht. Il est entré en vigueur le 1er novembre 1993. Il est couramment appelé traité de Maastricht. Alors ce traité-là, il a mis en place une structure nouvelle, articulée autour de trois piliers. Modifié par le traité d'Amsterdam. Donc la communauté européenne, dont on va parler plus précisément tout à l'heure. Et les deux autres piliers, donc je les dévoile en même temps parce que ici c'est une procédure intergouvernementale. La politique étrangère et de sécurité commune, appelée PESC, politique étrangère de sécurité commune. La coopération policière et judiciaire en matière pénale. Donc un pilier, deuxième pilier, troisième pilier. Et on a donc un petit complément au-dessus en fait... La banque, les sous, voilà les banquiers, hein, qui définit la politique monétaire de l'UE et la met en œuvre conjointement avec les banques centrales des pays hors zone euro, à savoir que ce sont des banquiers en fait, ce sont des banquiers qui sont tout à fait indépendants. Donc la zone euro, hein, forcément avec les pays qui ont adopté l'euro, mais qui aussi, et c'est pour ça que Paul nous avait donné ce schéma, qui chapeaute en fait tout. Alors on a quatre institutions, essentiellement quatre institutions, le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, on a le Parlement européen et on a la Commission. Alors, le Conseil européen représente l'intérêt des États. Il est composé de chefs de gouvernement ou des chefs des États selon le fonctionnement des pays. Et qui se réunissent deux à quatre fois dans l'année, enfin selon les besoins aussi des choses. Le Conseil de l'Union européenne, ce sont les ministres. Le Parlement européen représente, lui, l'intérêt des peuples. Donc nous, on va voter pour le Parlement. Et la Commission, Eh bien, c'est l'intérêt de l'Union européenne.
Au niveau du Parlement européen, l'ensemble des députés qui appartiennent à des partis dans leur pays, hein, des partis nationaux, se regroupent dans des groupes politiques. Chaque député doit dire dans quel groupe politique il se reconnaît, il se situe au sein du Parlement européen. Il y a 8 groupes politiques. Il y a quelques députés qui choisissent d'être non inscrits. Donc sur ce tableau-là, hein, de ce côté-ci, vous prenez la feuille de ce côté-ci, vous avez dans la première colonne de gauche les 8 groupes au Parlement européen que je viens d'évoquer, avec tout en bas les non inscrits. Pour chacun des groupes, vous avez le nombre d'élus au niveau européen. Vous voyez les nombres inscrits, ils sont 23. Au niveau européen, ils se répartissent à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Et pour chacun de ces groupes, vous avez indiqué le nombre de sièges français. Donc si on prend la première ligne, le groupe PPE qui a 216 élus au niveau européen, il a 20 élus français qui proviennent, lors des élections de 2014, des listes UMP.
Est-ce que vous pourriez nous détailler ce que veut dire PPE, CRE, parce que honnêtement,
ça c'est rien. En deuxième année, quand on sera en deuxième année.
C'est l'appellation des groupes au Parlement.
Alors PPE, c'est Parti populaire européen.
Ah, je dis pas loin.
PPE. CRE, c'est conservateur et réformiste européen. On a une photo des 8 groupes politiques européens, des élus français auxquels ça correspond, en tout cas des partis français auxquels ça correspond. Donc pour essayer de les situer sur l'échiquier du Parlement, et notamment pour essayer de se donner des points de repère pour se faire un avis sur eux, on a choisi de vous proposer un petit exercice pour chacun de ces 8 groupes politiques, hein, auxquels correspondent des partis français que l'on connaît. On va essayer de les situer par rapport à 4 axes qu'on a retenus. Donc le premier axe, c'est l'axe de l'Europe. Il y a des partis qui prônent plus d'Europe, qui sont pour plus d'Europe. Il y a des partis qui privilégient les nations, qui eux sont pour moins d'Europe. Dans les adjectifs, hein, que vous avez dans le tableau, que les gens s'attribuent, ils se disent europhiles ou eurosceptiques. Quoi. Le deuxième axe qu'on vous propose de retenir pour essayer de situer les gens, c'est l'axe de la démocratie. Avec des personnes, enfin des partis qui, du point de vue idéologique, prônent plus de démocratie, même si tout le monde ne prône pas forcément le même type de fonctionnement démocratique, hein, ce qui est le plus souvent défendu, c'est la démocratie représentative. On pourrait imaginer un mode de démocratie basé sur la démocratie directe. Enfin, plus de démocratie ne veut pas dire qu'on pense tous la même chose. Hein. Il peut y avoir des modèles différents prônés par les courants de pensée. Qui s'oppose à des idéologies qui sont pour, qui penchent vers le moins de démocratie possible, des courants de pensée, des idéologies autocratiques, ou qui pensent que l'argent, c'est lui qui décide et non pas les peuples. On appelle ça la plutocratie, je ne connaissais pas, donc voilà. L'autre axe que je vous propose de retenir, concernant les ressources que l'homme a trouvées sur la planète, est-ce qu'on est plutôt dans l'idée de préserver la planète? Donc je vais mettre plus d'environnement. Ou est-ce qu'on est plutôt dans notre courant de pensée des défenseurs de plus d'activité humaine, quoi. Plus d'activité humaine, plus d'extractivisme, plus de production. Et le quatrième axe sur lequel on vous propose, qu'on vous propose de prendre en compte pour situer les différents courants de pensée, c'est l'axe des droits. Est-ce que dans mon idéologie, dans mon courant de pensée, on serait plus des défenseurs des droits sociaux, le droit à la santé, le droit au logement, le droit à l'éducation, ou est-ce que je mets plus en priorité le droit de propriété, comme étant un droit qui me paraît être au-dessus des autres. Maintenant qu'on a perçu un petit peu que il y a des intérêts contradictoires et que sur un axe donné, il faut savoir où on se situe, je vous propose, j'ai 8 fiches, hein, c'est les 8 groupes politiques européens, je vous propose de me dire où vous vous les situeriez. Alors, Europe Écologie Les Verts, sur l'axe de l'Europe, plus d'Europe ou moins d'Europe ?
Plus d'Europe.
Plus d'Europe. Sur l'axe de la démocratie, plus de démocratie ou moins de démocratie ?
Plus.
Plus de démocratie. Sur l'axe de la production et environnement ?
Ouais.
Plus d'environnement. Ouais. Sur l'axe les droits, ils sont plutôt défenseurs des droits sociaux ou ils sont plutôt défenseurs du droit de propriété ?
Droits sociaux.
Bon, donc on a situé Europe Écologie sur les 4 axes. Je vous pose une deuxième question. Si vous deviez expliquer à un enfant ou à quelqu'un qui n'y connaît rien dans l'organisation sociale et politique, Europe Écologie Les Verts, qu'est-ce qui le distingue le plus de tous les autres partis ? Sur quel axe ?
Il y a dans l'environnement.
L'environnement. Donc vous voyez, c'est pas un exercice où il y a le corriger. C'est pour nous donner des points de repère déjà pour nous-mêmes dans les choix qu'on a à faire et de s'interroger sur quelles sont nos priorités à nous quand il y a des choix contradictoires. Et puis aussi, si on veut discuter avec d'autres personnes, ça donne des points de repère aussi pour argumenter dans la conversation, quoi.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ?
Ben, pour essayer de comprendre un petit peu mieux ben justement l'Europe et voir un petit peu... Parce que voter, c'est un petit peu difficile, je dirais.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris des choses ? Ou en tout cas, est-ce que vous repartez là avec des réponses à des questionnements ?
Oui, quand même un petit peu, oui. Parce que bon, ça a quand même été bien expliqué. Et oui, bon, je ne sais pas encore trop comment je vais voter, mais bon, c'est un tout petit peu plus clair, je vais dire.
Pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement et l'organisation de l'Europe, parce que j'estime qu'on n'en parle pas beaucoup et qu'on est un peu dans une nébuleuse, quoi. J'ai appris plusieurs choses, j'ai compris plusieurs choses, mais je sors un peu la tête, mais pas complètement, je dirais. C'est trop, trop complexe. Franchement, c'est très complexe.
Ce qui est complexe, c'est plutôt comment fonctionne l'Europe ou alors avoir un peu en tête par rapport aux élections.
Les deux, je pense. Les deux. Son fonctionnement est compliqué et c'est compliqué face aux élections, oui.
Vous auriez envie de quoi ? Peut-être de continuer quelque chose là-dessus ou...
De décortiquer plus en détail, par exemple, le pouvoir du Parlement européen. C'est ce pour quoi on va voter, donc j'aimerais bien, oui, savoir comment ça fonctionne réellement.
Bah, pour comprendre un peu mieux l'Europe dans sa globalité et avoir des informations qu'on a eues aujourd'hui, en particulier le fonctionnement, comment c'est décortiqué, les pouvoirs de chacun, et c'est intéressant et on a appris des choses.
Alors j'ai voulu venir pour me faire une idée sur la partition des différents courants politiques qui vont se présenter aux élections. Et je savais que ça allait être fait par des gens qui allaient respecter les différents courants de pensée. Ça donnait une explication de pourquoi je me posais ces questions-là. Donc maintenant, oui, je vois quand même beaucoup plus clair sur ce que je vais faire.